Bonus.
Trax.
Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du 4 en pop, le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Dans la saison 5 de Star Trek Lower Decks, l'équipage de l'USS Cerritos se voit chargé de refermer des failles spatiales dans le subespace car elles provoquent le chaos dans le cadran Alpha. Mais il semble qu'avec cet avant-dernier épisode de la série, qu'il ne soit pas le seul vaisseau à le faire. Et ça, on va en parler immédiatement. Engage!
Captain's log. For once, everything's going better than expected. I wasn't sure how my junior officers would handle their new promotions.
I don't want to get promoted. I want to stay charmingly insubordinate.
But they've shown remarkable composure.
Run!
Everyone's obeying orders and working in lockstep.
Nobody pull their disruptors.
There's no chaos.
Working.
Et pour en parler, je ne suis bien sûr pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, avec notre capitaine au cerveau positronique, Manu. Salut Manu.
Oui, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette quasi-fin de Lower Decks. On entame la fin là, on est la fin première partie.
Et on entame le seum aussi, un petit peu. En tout cas, moi j'anticipe, j'appréhende, donc je me prépare déjà mentalement. Et on est aussi avec notre expert officier scientifique Romain Nigita qui est revenu. Salut Romain, comment ça va ?
Eh ben ça va, je suis content d'être de retour parmi vous. C'est vrai que j'ai pas été trop dispo sur cette saison de Lower Decks, mais voilà, je serai au moins sur un épisode avec vous. Et donc du coup, bonsoir si vous écoutez ce podcast le soir, ou bonjour s'il fait jour, ou bonne nuit si vous êtes insomniaque.
Ah, tu veux dire que tu seras pas là la semaine prochaine pour le final ?
Eh ben ça c'était prévu, je t'avais jamais dit oui pour la semaine prochaine.
Ah mince, ok, ah mince, oui, c'est possible, j'ai oublié, tu sais, ou alors c'était dans un autre univers.
C'est possible, c'est pas le même Romain.
Ah c'est ça, voilà, c'est pour ça, ou c'est pas le même Guigui peut-être.
Peut-être.
Si t'as les souvenirs d'un autre Guigui, ça commence à être galère.
C'est le Quadrant Pop qui a fait un événement à Reims, c'est ça?
Bah moi il me semblait que c'était Nancy, mais ok.
Ah merde.
Là, on est un équipage un peu trop disparate, j'ai l'impression. Manu, t'habites bien à Nantes, on est d'accord?
Putain, Rosé, c'est juste à côté, mais oui.
Ah, ok. Bon, finalement, peut-être qu'on est pas si mal. Donc, on va commencer à parler de l'épisode de la semaine, parce qu'on n'a pas d'actualité Star Trek en vue. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode sans spoil?
Ah, tu ne demandes pas ce qu'on a passé, se penser des derniers épisodes, comme d'hab.
Ah oui, tiens, oui, c'est vrai, pardon. Qu'est-ce que vous avez pensé du... Oui, parce que toi, t'étais...
Moi, j'étais pas là pour le 7 et le 8, du coup.
Ah, t'étais pas là pour le 7 aussi? Ok, alors qu'est-ce que t'as pensé du 7 ou 8? Parce que Romain, je sais, parce qu'il a fait une capsule, du coup, je sais tout ce qu'il a pensé.
Ouais, j'ai fait un récap de la saison dans ma capsule.
Les 8 premiers, ouais.
Mais écoute, j'ai trouvé ça relativement bon, je me suis bien amusé, en tout cas, en plus, il y avait Dylan dans l'épisode 7, qui était un épisode qui utilisait en plus du lore de Star Trek, qui rebondissait sur des trucs. J'avais revu l'épisode de Voyager où ils sont devant la planète, qui les voit dans le ciel. Et du coup, qui est time-shifté de la même façon que cette planète. Je l'avais revu récemment, du coup, ça résonnait bien dans ma tête. Et j'ai trouvé l'épisode assez drôle, le caméo aussi plutôt sympa. Et ça m'a répondu en plus à ma question de pourquoi Tilly n'était pas aussi mise en avant, parce qu'il est toujours considéré en guest cast. Et du coup, elle fait pas vraiment partie de l'équipage principal. On a notre réponse officielle via la production de la série. Et l'épisode de la semaine dernière, en fait, ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que c'était l'antépénultième épisode de Lower Decks, qui est une série qui est quand même sur l'idée de on voit toujours le pont supérieur, allons voir ce que font les autres. Et là, c'est un épisode spécial inversé où on voit ce que font les autres pendant que les Lower Decks, on sait pas ce qu'ils font. Du coup, un épisode normal en fait de Star Trek. Mais cette déception était compensée par le fait que je trouve que l'épisode est assez dense et c'est un truc que je dirais d'ailleurs sur cet épisode de cette semaine. On s'ennuie pas, il y en a dans tous les sens et ouais, je me suis bien marré et Ransom était encore dans sa ransomerie de grande classe. Donc ouais, c'était deux bons épisodes pour moi. Ça dans la moyenne haute de la saison pour moi.
Ok, alors c'est marrant parce que c'est vrai que la semaine dernière dans le podcast, on a plutôt défoncé l'épisode.
Ouais, ouais, j'ai bien aimé.
Pas trop aimé. Et en fait,
j'ai revu aujourd'hui après l'avoir vu la semaine dernière et je maintiens.
Et en fait, ouais, on a constaté sur le Discord qu'effectivement, à peu près tout le monde avait plutôt bien aimé cet épisode. Donc, pour une fois, moi, j'étais bien en décalage avec le reste des gens parce que moi, l'épisode de la semaine dernière, c'était vraiment pas ouf. Alors justement, j'espère qu'on sera tous d'accord sur l'épisode de cette semaine. Manu, tu vas continuer à parler et nous dire qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode sans spoiler.
Ouais, écoute, j'ai des griefs sur certains trucs parce que, en fait, c'est même pas totalement des griefs, c'est juste qu'il y a l'utilisation de certains personnages qu'on spoilera en partie spoiler, mais vous allez comprendre facilement, la situation d'un couple et la situation d'un autre personnage, la façon dont il utilise dans l'épisode de façon très 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 multiple. Je trouve que c'est facile. C'est facile et fanservice et attendu, sauf que c'est plutôt pas mal fait et que l'épisode il est encore plus dense que celui de la semaine dernière. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'autres personnages. En fait, il y a des trucs faciles, mais à côté, il y a tellement d'autres personnages utilisés, d'autres références. Je trouve que quasiment toutes les blagues sont bonnes, que ça fonctionne hyper bien. Et j'ai eu l'impression en fait de voir un épisode plus long que d'habitude, alors que c'était la même durée. Parce qu'il y en avait plus à se mettre sous la dent, tu vois.
Non, je te confirme, il est un tout petit peu plus long de quelques minutes.
Ouais.
En général,
ouais,
okay. Les épisodes font 25 minutes, celui-là, il en faisait 28.
Mais tu vois, j'avais presque l'impression de voir un double épisode dans le fait qu'il y a tellement de choses dedans. Et du coup, ma petite frustration du fait que ce soit une première partie, et que du coup, il faut y attendre la semaine prochaine. Et du fait que ça met tellement de choses en avant de l'univers Star Trek qu'on n'est plus sur le crew de Lower Decks, même s'il y en a un qui est très. Enfin, il y a même deux qui sont plutôt centraux. J'imagine que les deux autres seront très exploiter la semaine prochaine, mais c'était satisfaisant, c'était très satisfaisant. Il y avait et même pas pour le fanservice, tu vois, parce que c'est presque la partie qui m'aurait emmerdé, mais je trouve que léger spoiler, mais en plus dans tous les caméos qu'il fait, c'est des caméos de personnages de Enterprise, Voyager ou du Space Nine, et du coup pas les deux grosses séries flagship de la franchise dans l'esprit des gens, et ça fait plaisir en fait de mettre ces personnages là plus en avant que les picarderies.
Il y a quand même une picarderie quand même à un moment donné.
Un petit peu, mais en vrai, ça va.
Et toi, Romain ?
Moi, sur cet épisode, j'ai un sentiment un petit peu ambivalent, justement à cause de Manu l'a cité, ce côté fanservice, qui pour moi, au début de l'épisode, j'avais l'impression, enfin, j'expliquerai dans la partie spoiler, mais ce côté fanservice à fond pouvait s'expliquer par un côté très méta, qui était logique avec Lower Decks. Et finalement.
Et avec le sujet.
Ouais, mais je peux pas le dire sans être plus spoiler, mais je le dirai tout à l'heure. Mais en gros, au début de l'épisode, la manière dont je voyais cet épisode-là, la manière dont je croyais le comprendre, me faisait dire ok, c'est méga fanservice, mais ça s'explique. Et finalement, la fin de l'épisode est venue contredire l'hypothèse que je faisais, et du coup, ça m'a fait dire « mince, ils sont tombés dans le piège que j'aurais voulu éviter ». Donc ce côté référence dans tous les sens, même s'il est jouissif d'un certain côté, ouais, je l'ai trouvé vraiment trop gratuit. Pour moi, j'ai l'impression de voir une fanfiction, grosso modo, clairement. Par contre, il y a un point que j'ai vraiment apprécié, c'est l'explication de l'arc de la saison. Voilà, on se rend compte que Lower Decks, à chaque fois, chaque saison, il y a un arc, hein, bon, ce qui est une structure assez classique pour une série. La saison précédente, c'était un grand méchant, grosso modo. Et là, on se rend compte que l'explication de ce qui se passe dans cette saison-là, c'est pas un gros méchant, c'est pas un big bad, c'est plus quelque chose de... c'est plus un concept. Et c'est vachement intéressant. Et ils auraient quasiment pu faire ça sans le côté fanservice, et à la fois on crache un tout petit peu dans la soupe, mais on le fait quand même, parce qu'il y a quand même ça. Donc c'est pour ça que je suis assez ambivalent sur cet épisode.
Je comprends un peu tes griefs. C'est vrai que j'ai eu un petit peu peur aussi, parce que je me souviens de l'épisode de Voyager, par exemple, qui était vraiment un gros épisode fanservice, et c'était trop, quoi. Ça m'avait un peu saoulé, d'ailleurs. Et là, j'ai eu cette peur, qui s'est vite évanouie, parce que, comme le dit Manu, c'est plutôt bien fait. Voilà, je me suis laissé porter par l'histoire, par le concept, parce que, comme tu le dis, en plus de ça, finalement, ça ne fait pas que du fanservice, ça rajoute des couches de nouvelles choses, en fait. Là, il y a quand même des nouveaux concepts, vraiment, qui sont pas si bêtes que ça, quand on y réfléchit, qui sont plutôt intéressants même, et qui pourraient même donner lieu, on sait pas, à un approfondissement de l'univers Star Trek dans sa globalité, hein, pourquoi pas. Et effectivement, je pense voir aussi quelle est la chose qui te gêne à la fin de l'épisode, de ce qu'on appelle du dernier épisode, et c'est vrai que j'ai un petit peu cette inquiétude-là, enfin, comme tu dis, c'est un piège, entre guillemets, dans lequel ils sont tombés, mais je me dis, pour un dernier épisode, ça peut passer. J'expliquerai un peu plus pourquoi je dis ça dans la partie spoiler, d'ailleurs, on va y aller tout de suite dans cette zone spoiler, parce que je sens que ça nous démange vraiment tous d'en parler, quoi.
Red Alert!
Nous sommes en train de refermer la faille, capitaine. Vous êtes obligé de faire ça sur la passerelle.
Vous me remercierez le jour où je découperai un intrus en morceaux.
Je croyais que les failles dimensionnelles étaient des phénomènes naturels. Qu'est-ce que vous poursuivez exactement?
On n'en sait rien, mais il y a des petits rigolos qui s'en prennent au multiverse.
Ils ont un vaisseau qui ouvre des failles pour passer de dimension en dimension.
Quoi? Attendez, il y a plus de deux dimensions?
Les scientifiques de Starfleet pensent qu'il y a un nombre infini de réalités quantiques. Chacune est représentée par une de ces sphères.
On est comme dans un bain moussant où chaque petite bulle serait un univers entier.
Le vaisseau que nous poursuivons perce l'enveloppe de ces bulles.
Et les failles résultantes affaiblissent l'intégrité structurelle de toutes les réalités.
Pourquoi quelqu'un prendrait le risque de détruire la réalité?
Parce que c'est sûrement une saleté de version maléfique d'une personne qu'on connaît, comme un anti-Picard ou un Kirk tout borgifié. J'en sais rien, ou un Hour fumain, on s'en fout, c'est que ça le multiverse. Une excuse facile pour recycler des personnages plutôt que d'en imaginer d'autres.
J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas?
L'enthousiasme et la patience du capitaine commencent à faiblir.
Pas étonnant, sauter de dimension en dimension sans jamais retrouver le méchant, ça doit être frustrant.
Voilà une observation pleine de sagacité, monsieur Kim.
Merci.
Warning. Alors, l'épisode s'appelle Fisher's Quest en anglais et en français, j'ai oublié. Ça doit être un peu un truc du style à la recherche de la faille ou un truc comme ça. Et l'épisode a été écrit par Lauren McGuire et dirigé par Brandon Williams. Donc, un épisode vraiment sympathique où, en fait, au début de l'épisode, on a tous nos joyeux lurons qui sont en train de discuter. Et je pense qu'il y a un foreshadowing par rapport à l'implant de Rutherford qui visiblement lance du plasma comme ça. Donc, si c'est comme ça, c'est pas que pour la blague, c'est que ça va resservir plus tard. Et on se rend compte que Boimler a sa barbe, enfin. Mais surtout, on évoque... Alors, c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais évoqué dans le podcast de la semaine dernière. Et je disais que moi, le double de Boimler, si on le revoyait pas dans la série, ça serait un grand manque. Ça serait vraiment un gros tiroir ouvert et pas du tout fermé. Ça me frustrerait pour la fin de la série. Et justement, on évoque et on ne fait pas que l'évoquer puisqu'on va le suivre. Et en fait, on va suivre donc le vaisseau qui est commandé par le capitaine Boimler, donc de la section 31. Et c'est un vaisseau de type défiant.
Il n'a pas le droit de dire le nom de la section.
Il n'a pas le droit de dire le nom, on sait ce que c'est, hein, surtout qu'il a l'insigne noir. Donc on sait, tout le monde sait ce que c'est, mais il n'a pas le droit de dire le nom. C'est drôle, même la date, la date stellaire
est
confidentielle.
La date stellaire, il n'a pas le droit.
Ouais. Et donc c'est un vaisseau de type défiant, et avec ça, il a quand même un super équipage, parce qu'il a Tipol, il a Curzon Dax, donc l'hôte de Dax, de Jadzia Dax, avant Jadzia donc, et Garak, en médecin, qui est marié à l'hologramme du docteur Bashir, et tous en fait viennent de dimensions différentes, puisque la mission de Boimler, c'est de traquer justement, parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y a donc un vaisseau, il y a une personne qui est derrière les failles dimensionnelles, l'ouverture de toute cette faille dimensionnelle, et Boimler est sur ses traces, il est en train de les traquer avec tout ce joli équipage. Alors justement, donc Romain, toi qui n'étais pas trop chaud pour tout ce que tu pensais être du fan service, qu'est-ce que tu as pensé du coup de quand tu as vu la composition de cet équipage? J'en ai pas... Ah si, j'en ai oublié un, bien sûr. Super important, c'est qu'ils vont secourir quelqu'un dans un vaisseau qui est en déperdition. Et il s'agit d'un Kim. Et évidemment, des Harry Kim, ils en ont toute une tripotée. Ils ont tout un équipage de Harry Kim. Et ça, c'était quand même super drôle, quoi. Ça faisait très Rick et Morty dans l'esprit, mais je trouvais que ça marchait très bien.
En fait, c'est une reprise quasiment de Loki saison 1, où il explique que tous les variants qui traquent, c'est quasiment tous des Loki.
C'est vrai qu'il y a ça aussi. Bon, après, tous les Kim, moi, ça m'a fait penser à l'épisode de la nursery des Jerry aussi, où tu vois tous les Jerry dans Rick et Morty. J'adore cet épisode, il me fait hurler de rire à chaque fois que je le revois. Enfin bref, et alors du coup, Romain, qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce que ça t'a vraiment crispé à ce point-là de revoir tous ces personnages-là? Parce que moi, quand j'ai vu Garak, mon cœur a explosé, et quand j'ai vu que Garak était marié à un hologramme du docteur Bashir, alors là, j'en pouvais plus, je trouvais ça vraiment trop génial, quoi. C'est effectivement une fanfiction écrite par des millions de fans, d'ailleurs, mais ça fait quand même plaisir, quoi.
En fait, moi, pour tout te dire, au début de l'épisode, quand justement le Boimler, on va dire le Boimler Prime, ou l'original, dit « Ah là là, je me demande ce qui est devenu mon double », pour moi, en fait, j'avais l'impression que cet épisode se passait dans sa tête.
Ah d'accord.
C'est vraiment lui qui imagine, et ce qui est logique que ça soit quasiment une fanfiction, puisque Boimler, c'est le fan de Starfleet et de la Fédération. D'ailleurs, il y a une blague par rapport à ça à la fin de l'épisode, quand on dit « Bah oui, vous voyez ce que c'est un fan de la Fédération ?»« Ah oui, c'est comme Archer ». Donc pour moi, c'était logique, toi, pour le côté méta, que si Boimler imagine ce qui est devenu son double, il fait un équipage comme ça avec des gens qui viennent de partout, avec des vedettes de l'univers. Sauf que, bon, on est de toute façon dans la zone spoiler, on se rend compte qu'à la fin de l'épisode, que c'est pas du tout dans sa tête, c'est vraiment ce qui se passe en vrai, c'est canonique, etc.
Bon, c'est depuis le début que c'est... Enfin, t'avais peut-être oublié la scène où son double se fait recruter par la section 31.
Non, mais c'est pas par rapport à ça. Il peut d'accord se faire récupérer, mais tu peux... Enfin, la manière dont commence le début de l'épisode, quand il dit « Ah là, je me demande ce qu'il est devenu », est un espèce de flash où ça va être...
Oui, parce que t'as la caméra qui est sur Boimler et après elle part vers la droite et ça suggère effectivement qu'il imagine, et on pourrait imaginer que c'est ses pensées.
Et moi en fait je crois que j'avais envie de croire ça. Parce que ça collait tellement avec ça, le fait que ça colle...
Mais Boimler, il sait pas que son double, il a été recruté par la section 31. Alors que nous, on le sait. Donc c'est quand même vachement plus logique que ça soit pas un rêve.
Enfin, je pense que même lui, s'il imaginait, il serait content qu'en fait, il soit pas mort. Enfin, bref, c'est peut-être pas logique en tant que tel, mais le fait qu'il imaginerait un destin tel que celui-là pour son double, moi ça me paraissait d'une certaine manière logique et ça aurait justifié justement le délire d'avoir que de la fanfic comme ça. Et ouais, moi ça m'a déçu finalement quand on se rend compte à la fin de l'épisode que non, c'est bien réel, à tel point que ouais, toutes les phrases du justement du capitaine William Boimler qui crache sur le côté ras-le-cul des multivers, c'est que des remixes de feignants, etc., là aussi c'est un peu c'est ce que je disais tout à l'heure avant la zone spoiler, je trouvais ça un peu craché dans la soupe. C'est ok, on dit que c'est nul, enfin en tout cas le personnage dit que c'est nul, mais on le fait quand même. Donc voilà, c'est cet aspect-là qui m'a un peu gêné. Après, je jette pas du tout le reste de l'épisode. Je suis en effet super content de revoir tous ces personnages-là. D'ailleurs, T'Pol, je l'ai même reconnu avant même qu'ils disent que c'est elle. Donc c'est dire à quel point
ça
faisait plaisir de.
Le dessin est bien fait.
Ah ouais, c'est absolument impressionnant. Et moi, j'aime bien, de toute façon, le concept de ce double de Boimler qui a, d'une certaine manière, qui est plus cool et plus classe. En gros, il est tout ce que lui rêvait d'être. Ça me rappelle tout le temps Red Dwarf, où il y a le personnage de Rimmer, qui est le mec un peu en bas de l'échelle, qui est un gros connard. Et il se rend compte, un jour, il rencontre une version de dimension parallèle, qui est un espèce de Rimmer, mais version Top Gun. Donc, c'est vraiment un peu ce parallèle entre les deux Boimler. Donc, le concept de base d'avoir cet autre Boimler me gêne pas. Je suis content de voir toutes ces versions-là. Mais malgré tout, je trouve que c'est pour un avant-dernier épisode, je trouve ça un petit peu feignant, comme le dit Boimler lui-même.
Ouais, parce qu'il dit que c'est vrai, c'est un truc de feignant, plutôt qu'avoir des. Ça empêche des. Ça évite d'imaginer de nouveaux personnages.
C'est ça.
Mais par contre, ce qui est quand même drôle, c'est qu'il te dit quand même un truc qu'ils ne font pas dans l'épisode. Il te dit, oui, le méchant, c'est sûrement quelqu'un qu'on connaît, un anti-Picard ou un Kirk Borghisé. Et du coup, ça m'a fait hurler de rire. Et non, c'est pas du tout.
C'est un peu ce qu'ils font avec le Kim qui pète les plombs.
C'est vrai.
En partie.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas lui qui est derrière tout ça, c'est pas un plan... Ouais, le Kim qui pète les plombs, il a juste pété un plomb et puis il a fait absolument n'importe quoi, quoi. Mais il n'y a pas de grand méchant avec des dessins machiavéliques,
ça,
avec
vrai,
un
ouais.
plan incroyable. C'est vraiment un concours de circonstances qui fait que... Et c'est plutôt pas mal, moi. Alors par contre, est-ce que... Vous l'avez regardé en VO, j'imagine. Est-ce que, comme Romain Brami, vous avez reconnu les acteurs dans leur façon de jouer ou ils vous ont semblé différents?
Non, c'est sûr, je les reconnais, hein. Enfin,
moi je trouve aussi.
Au moins,
ouais.
T-Pol et Kim, on les reconnaît bien.
Pour moi, Garak aussi.
Garak aussi, ouais. Mais même Bashir, mais enfin, ouais, je trouve que tous les personnages repris, ça fonctionne plutôt bien parce que j'ai tout vu les séries en VO, de toute façon, et jamais en VF. Donc,
Moi, j'ai eu un petit peu plus de mal, mais j'avais eu le même problème avec l'épisode de Lower Decks avec les personnages de Deep Space Nine, où certes, j'ai vu les séries en VO, comme tous les deux, mais pas en animation, du coup, parce que c'était pas des séries d'animation. Mais je trouve qu'à la fois, le fait qu'ils ont certainement un tout petit peu vieilli et la distance que du coup ça crée avec de l'animation, je sais pas, moi honnêtement je les ai pas reconnus tout de suite et j'ai vérifié au générique de fin que c'était bien eux, que c'était pas des gens qui imitaient les voix, et en effet c'est bien eux, mais ouais j'ai pas été tout de suite certain que c'était bien eux.
Alors Alexander Siddig, c'est vrai que j'ai eu un petit doute, par contre c'est Andrew Robinson hein, je crois,
ouais, pour Garak, ouais.
Lui j'ai reconnu immédiatement et c'est l'actrice qui joue T'Pol, donc j'arrive jamais à me
Jolene
souvenir Belloc. De son
nom, ouais. Enfin là c'est Jolene tout court d'ailleurs,
ouais c'est renommé ou ils ont oublié 100%.
Non, c'est elle. Il y a une la question a été posée sur Blue Sky et McManahan a répondu. C'est elle qui demande à ce qu'on l'appelle Jolene tout court maintenant et plus Blalock.
Ah d'accord.
Ok.
Ok. Bon, en tout cas, ça faisait plaisir. Moi, je suis pas un grand fan de T-Pol, mais ça m'a quand même fait plaisir de la revoir. Et oui, l'histoire avec les Kim, c'est quand même super drôle de se dire. En fait, le Kim qui pète les plombs, c'est celui qui a eu une promotion. En fait, celui qui est devenu lieutenant. Ouais, moi.
Je trouve que sur T-Pol, le personnage est dans un contexte totalement différent d'Enterprise, mais reste cohérent avec son personnage dans ce qu'il est,
oui.
et sa façon d'être. Je trouvais ça plutôt très bien écrit. Après, les autres, enfin, là, j'ai vraiment l'impression que c'est un personnage genre original d'Enterprise qui a été pris quasiment dans l'autre timeline, quoi. Donc c'est la même timeline que eux, donc on sait que c'est pas le cas, mais a priori il y a pas grand chose qui diffère, quoi, contrairement aux autres où on sait qu'ils ont une situation différente. Mais et pour les Kim, ce que je trouvais super efficace, enfin super marrant, c'était les questions qu'ils se posent avec et vous, qu'est-ce que vous avez fait dans cette situation, et vous, qu'est-ce que vous avez fait,
quand ils font des paris sur le est-ce que vous êtes est-ce que le voyageur est rentré sur Terre ou pas,
est-ce que vous avez settled là-bas, et du coup il y a l'air d'y en avoir un seul où le voyageur est resté dans les quadrants, et ça me fait beaucoup rire. par rapport à... ils critiquent le multiverse, mais ils le font quand même. Je trouve que justement, c'est fait... enfin, l'épisode propose la critique publique du multiverse, parce que en plus, il arrive clairement après la fatigue du multiverse dans toutes les œuvres qui est possible et imaginable. En montrant justement la fatigue du multiverse et les critiques de... de toute façon, c'est juste pour avoir une version différente, collector, d'un personnage qu'on connaît déjà. Et en fait, je trouve ça assez cohérent avec Boimler dans sa vision de lui, il veut visiter la galaxie, et pas des versions différentes des mêmes choses. À la fin, il y a une réponse à ça. Du coup, la réponse est à la fois méta et répond à Boimler et lui propose une autre perspective. Et du coup, ça me paraît pas incohérent, en fait, de critiquer tout en faisant, parce qu'à la fin, il propose une vision différente de la chose. Et je trouve que leur autre fédération, qui a un autre but, du coup, elle est très intéressante dans le concept.
Ouais, complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé que ça pourrait même donner lieu à un approfondissement ultérieur un jour, hein, parce que c'est qu'effectivement, l'idée de toutes ces failles...
Après, c'est quasiment Sliders, hein, le concept, hein, mais bon...
Ouais, enfin, Sliders avec des vaisseaux, quoi. Et, parce que là, du coup, c'est Lily Sloan, donc le personnage, donc un personnage de la nouvelle génération, mais du film First Contact, qui était avec Zefran Cochrane, et en fait, eux, leur délire, c'est pas d'explorer la galaxie, c'est effectivement d'avoir construit un vaisseau multidimensionnel. Et il se promène de dimension en dimension. Bon, il se promène quand même dans tout le quadrant, hein, parce que vu là où ils se trouvent, ils sont pas près de la Terre, hein, quand même. Donc ils explorent quand même un peu l'espace, hein, malgré tout. Donc un équipage humain avec 2-3 Vulcains, et puis voilà, ils explorent d'autres dimensions plutôt qu'explorer la galaxie. Et ils sont une sorte de dimension, de fédération, de Starfleet explorateur de dimensions. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, parce que Boimler, lui, il dit, putain, mais ouais, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est explorer la galaxie. C'est nul d'explorer des dimensions. Et Lily Sloan lui fait tourner un peu, lui fait un peu changer d'avis en lui montrant l'intérêt qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que à force de
découvrir l'humanité plutôt que la galaxie, quoi.
Voilà, explorer l'humanité plutôt que la galaxie, on se rend compte que l'humanité pourrait avoir un potentiel assez gigantesque. Alors, on imagine qu'il y a des versions mauvaises de l'humanité comme des bonnes versions, mais en tout cas, voilà, explorer cette variété d'humanité, bah, fait que c'est des explorateurs malgré tout, et c'est vrai que vu de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant, quoi. Alors, en mettre en parallèle avec l'exploration de la galaxie.
Si on fait le parallèle avec les règles de la fédération, il y a le moment où du coup ils disent bah, pourquoi vous ne nous avez pas prévenu, et du coup Sloan répond bah parce que on a mis en place des règles pour pas gêner la progression des espèces qui font pas du voyage interdimensionnel. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres dimensions qui font la même chose en parallèle.
Ouais, donc il y a une prime directive dimensionnelle, et du coup ils se retrouvent de l'autre côté, quoi. C'est plutôt intéressant, parce qu'en fait, ouais, donc si j'ai bien compris, à chaque fois qu'ils se promènent d'une dimension à une autre, une histoire d'énergie qui doit s'évacuer. Il y a une autre ouverture qui se fait, et c'est à ce moment-là qu'il y a bah, donc, toutes les digressions qu'on a pu observer dans la saison 5 qui sont finalement des accidents, quoi. Et Boimler, bah, il traquait donc, des gens qui avaient, en gros, mal fermé la porte derrière eux, finalement.
Il y a un côté un peu... c'est Discovery saison 3 ou 4, je ne sais plus, 3 je crois, quand ils arrivent dans le futur et qu'il y a eu The Burn et qu'on se rend compte que la menace, du coup, en fait, c'est juste un pauvre mec qui fait des crises de panique.
Ouais, c'est vrai, moi je trouve ça plus intéressant que ce soit ça que effectivement un grand méchant ou quoi que ce soit, quoi. Et sinon, ouais, pour revenir à T'Pol, moi ce qui il y a la seule différence avec la vraie T'Pol, c'est qu'elle a été mariée à Trip pendant plusieurs décennies, et spoiler, je vais pas dire la différence avec la vraie série Enterprise,
oui,
pour ceux qui n'ont pas vu
pas
la
possible.
Série Enterprise, parce que c'est quand même un spoiler sur le final de la série Enterprise.
Final scandaleux dans le fait de verser au personnage.
mais par contre, j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle avait avec Curzon Dax, parce qu'elle faisait vraiment bien écho à Spock et McCoy, par exemple, et voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique, cette espèce de clin d'œil dans le clin d'œil. Et par contre, il y a quand même un truc que je me suis dit. Bon, on savait que c'était un double épisode, mais on savait pas si dans l'épisode final, donc la deuxième partie, on verrait cet équipage-là. Et je me suis dit, ils vont quand même pas nous faire une fin comme Enterprise, où en fait le dernier épisode, c'est pas un épisode de l'équipage qu'on a suivi toute la série, et que ce soit sur un autre. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais non, là, clairement, la fin d'épisode nous dit, ça sera l'autre côté.
Oui, voilà, c'est ça. Mais à un moment donné, j'ai eu cette réflexion en regardant l'épisode, je me suis dit, mais si ça se trouve, le deuxième épisode, ça va être la suite de ce qu'on est en train de regarder. Et du coup, la fin de la série se fera sur d'autres personnages que ceux qu'on a suivis, sachant en plus que la saison 5, au moment où ils l'ont créé, au début qu'ils avaient commencé l'écriture de la saison, ils ne savaient pas que c'était la dernière. Donc potentiellement, on aurait pu imaginer un couac comme ça, mais ouf, heureusement, ce n'est pas du tout le cas, quoi.
Non, la question du coup, c'est est-ce qu'on verra quand même l'équipage de l'Anaximander ou pas du tout dans l'ultime épisode?
Ouais, je pense pas du coup. Ah, ouais, si, je pense pas, ou alors peut-être une petite...
En deuxième moitié d'épisode, si.
Ouais, tu penses? Alors, moi, je pense que si on les voit, ça sera vraiment très furtif. Ça sera genre une image ou deux, tu vois.
Ouais, peut-être. Enfin, au moins, juste le capitaine Bumbler. Enfin, le double de notre Bumbler à nous. Ouais, ça serait quand même pas mal qu'il puisse ou communiquer ou se retrouver face à face pour mesurer un peu l'évolution de chacun. Ça serait un... Là, ça justifierait peut-être un peu plus le fait d'avoir cette première partie. Toi, si c'est juste vraiment... on envoie un message à la fin de l'épisode et puis ensuite démerdez-vous dans le dernier, là je serai encore plus déçu. Pour l'instant je suis pas totalement négatif sur l'épisode, voilà, je pense que la deuxième partie va confirmer ou pas ce que je pense, mais ouais, là je trouve que vraiment s'il n'y a pas du tout un espèce de payoff avec au moins une apparition de cet équipage-là la semaine prochaine, ça serait quand même dommage. Ouais.
Moi, je pense que ça va les mettre dans une position où ils vont lancer leur propre truc interdimensionnel en fin de saison et puis partir de leur côté vers une nouvelle mission pour la Fédération, quoi.
Et puis, ils nous feront un spin-off. Peut-être qu'ils ils arrêtent l'Overdecks parce qu'ils vont faire un spin-off avec eux, une série un peu façon Legends of Tomorrow.
J'ai pas compris, Manu, tu veux dire quoi? C'est-à-dire que tu penses que les personnages de Lower Decks vont partir dans d'autres dimensions, explorer d'autres dimensions, c'est ça?
Non, l'équipage qu'on a vu dans cet épisode.
L'équipage de l'Alex Mander.
Ah oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est possible. Oui, moi, je pense que si on les voit, ça sera vraiment... Enfin, moi, je suis pas sûr qu'on les voie vraiment. Et si on les voit, je pense que ça sera très furtif. Parce que pour moi, il y a un gros payoff qui est fait. Je reviens sur cette histoire de double de Boimler. Donc, moi, j'attendais son retour depuis la saison 3. Mais en fait, du coup, on se rend compte que... Alors, on l'a pas dit. Mais finalement, l'univers, ce qu'on appelle le prime univers de Star Trek, est en danger. Là, du coup, c'est carrément les Lower Decks qui vont devoir sauver l'univers littéralement. Parce que le mauvais Kim qui a pété un câble, parce qu'il trouvait que c'était scandaleux que tous les Kim, ils sont restés en scène, et donc il voulait les amener dans d'autres dimensions. Donc il a complètement vrillé, le gars. Il a volé le vaisseau de Sloan. Dimensionnel, et du coup, bon, pour des raisons que j'ai pas bien compris, hein, mais en gros, il a pas utilisé le moteur comme il fallait, qui était pas réparé comme il fallait, etc. Et du coup, ça a créé une gigantesque faille, un truc qui peut détruire tous les univers, sauf si on dirige un peu toute cette mauvaise énergie dans un seul univers qu'on sacrifie, en fait. Et Boimler, le clone téléporté de Boimler de l'univers Prime, bah, va décider de choisir son univers parce qu'il a confiance aux personnes qu'il connaît, donc Rutherford. Bah, c'est bizarre de penser qu'ils sont quand même en capacité de sauver l'univers comme ça, quoi. Mais bon, il se dit, voilà, je prends sur moi, ça sera mon univers qui va trinquer et j'ai confiance aux gens de mon univers pour se sortir de cette situation-là. Donc, il sauve le multivers en sacrifiant son univers et en envoyant un message au Boimler original, on va dire. Et moi, du coup, je trouve qu'il y a quand même un payoff à tout ça, déjà, sur toute la série. C'est pour ça que c'est pas mal que ça arrive pour le dernier épisode. C'est-à-dire que, finalement, toute cette situation-là, elle est possible parce que Boimler a été muté sur le Titan en fin de saison 1, qu'il en est parti au début de saison 2, parce qu'il y a eu ce double de téléportation, qui est mort... enfin dont on a simulé la mort en saison 3 et qui est devenu finalement un agent de la section 31. Du coup, il y a vraiment un fil rouge qui part de conséquences d'action qui remontent à la saison 1 et qui sont liées intimement au personnage de Lower Decks. Donc je trouve quand même qu'il y a un payoff global par rapport à tout ça, et ce qui fait que bah moi, si on les revoyait pas les personnages de cet épisode là, je serais pas plus frustré que ça, quoi. Je pense plutôt qu'on va revoir peut-être les gens de la base 80 ou des choses comme ça peut-être. Mais oui, pourquoi pas, de toute façon.
Mais ce qui est pas mal, c'est justement avec le choix que fait William Boimler de diriger la menace vers les personnages en lesquels il a confiance. Pour une fois, il n'y a pas ce côté gratuit de beaucoup de films ou séries ou autres où, comme par hasard, c'est toujours nos héros à nous qui vont sauver l'univers. Là, c'est un choix de la part du capitaine William Boimler. Donc ça, je trouve ça malin aussi. C'est pour ça que toute l'intrigue purement de SF avec cet équipage qui voyage d'univers en univers, de galaxie en galaxie, je trouve ça vraiment très très malin, comme on l'a dit au départ. Et en plus, le fait de le faire avec Lily Sloan, qui là pour de bon est, je pense, pas un personnage auquel les gens consacrent des fanfictions, mais c'est logique avec son côté exploratrice, curieuse, etc. Donc franchement, cette partie là moi j'ai trouvé ça vachement bien trouvé. C'est plus, voilà, tout le côté tout on va dire gaguesque de ok, dans quel délire on va pouvoir aller pour utiliser le multiverse. Mais sinon, voilà, tout ce que t'as rappelé, Guigui, sur le fait de ce fil rouge de Boimler au fur et à mesure des saisons, et qui est en parallèle de l'évolution du Boimler Prime originel, tout ça c'est très intelligent. Mais de toute façon, c'est une intelligence qu'on a pu constater depuis le début de la série, et c'est pas pour rien qu'on dit et qu'on répète que c'est l'une des meilleures séries Trek de la période actuelle, et ça le prouve jusqu'au bout. Voilà, j'espère juste que l'atterrissage confirmera tout ça la semaine prochaine.
Mais il y a juste un truc, moi, qui me dérange, c'est qu'on dit toujours, ah là là, à chaque fois il faut qu'il y ait un gros enjeu, c'est embêtant, là il doit sauver l'univers. Bon, C'est vrai que c'est embêtant de se dire des Lower Decks qui doivent sauver l'univers, mais c'est le dernier épisode, après tout, pourquoi pas.
Ouais, ça me perturbe pas plus que ça, tu vois.
Je veux dire que l'enjeu soit aussi ultime pour le tout dernier épisode, alors que jusqu'à maintenant, il faisait des trucs, pas de seconde zone, mais quand même des menaces quand même beaucoup moins grandes. Voilà, moi je trouve que pour un dernier épisode, il faut que ça pète. Et par contre, il faut que l'épisode il soit un peu plus long que d'habitude. Là. J'espère qu'il fera plus d'une
côté,
demi-heure.
C'est Harry Kim qui met le multivers en danger. Et c'est aussi absurde que le fait que ce soit les Lower Decks qui doivent le sauver. Tu vois.
Non, mais oui, c'est vrai. Bah...
Ils affrontent le Lower Deck ultime.
c'est vrai.
Ouais. Mais qui, du coup, lui, on est bien d'accord qu'il est mort. Hein.
C'est peut-être lui qui se transforme en koala.
Parce que quand il vole le vaisseau et qu'il rentre dans la grosse faille rouge là,
ah oui, le vaisseau, oui, il a l'air explosé. Le vaisseau il fait splouf.
Ouais, voilà, donc en fait, c'est juste un Harry Kim qui a fait absolument n'importe quoi et au mépris du danger, bah du coup, il a un accident con quoi. Et dans son siège, bah il entraîne tout le multivers.
D'ailleurs, t'as une remarque d'un des Harry Kim à un moment qui dit non, mais en fait, le Voyager, il affrontait tellement de trucs tout le temps, il y avait tout le temps plein de menaces, on s'en foutait un petit peu de pas être... Enfin, c'était pas trop notre priorité de
ouais,
passer.
C'est vrai.
Ce qui corrige un petit peu l'avis qu'on peut avoir de Harry Kim, du fait que ça l'énervait, ce qui est un petit peu le cas parfois dans la série, mais c'est pas forcément le ressenti général du personnage non plus, quoi.
Pas à ce point-là, d'ailleurs, il y a un gars, à un moment donné, quand il y a tous les Kim qui pointent le mauvais Kim du doigt, qui lui dit « C'est pas très Kim, ce que tu fais. C'est pas tout. » Enfin, voilà, il se définit « C'est pas très... T'es pas comme nous, en fait. » Et oui, parce que les autres Kim, ils sont plutôt cool, ils sont fait berner, en fait, par lui. On sait pas ce qu'il leur a dit, mais on imagine qu'il leur a dit un gros bobard qu'ils ont gobé, et voilà. Quoi.
Est-ce que vous croyez que tous les Harry Kim, c'est pas les Harry Kim originaux de leur dimension parce qu'ils ont eu le décalage aussi et
bonne question.
Parce que rappelle que ce Harry Kim n'est pas le Harry Kim, le Harry Kim qu'on connaît n'est pas le Harry Kim original déjà. Ah, c'est une,
ouais,
une
tout
variation.
À fait.
Peut-être que celui justement qui a réussi à évoluer dans la hiérarchie, c'est le seul qui était resté le vrai, l'original.
Celui ouais où c'est
ici. Qui a pété les plombs. Ouais.
Enfin Dieu. Peut-être.
Ah là là, sacré Kim. Et sinon, il y a quand même un élément de l'épisode qu'on a complètement occulté, dont on n'a pas du tout parlé.
Ah bah c'est peut-être le même alors. Je voulais t'en parler.
Ouais, c'est Mariner.
Oui, bah c'est le même. La double de Mariner, ouais, elle est trop bien.
Elle est trop bien, je l'adore.
Bah oui, parce que quitte à faire du multivers, autant avoir une Mariner qui est vraiment pas du tout dans le même boot que l'original. Et le fait que ce soit une Mariner ingénieur qui veut absolument pas sortir de son labo parce que les missions à la sortie ou autre, c'est dangereux. Je trouve que ça marche bien en plus avec le... malgré tout, ça reste une pote de Mumler et leur amitié, elle transcende les réalités.
Mm-mm. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui en fait fait que le capitaine Mumler va choisir son propre univers. Parce que donc, c'est une conversation qu'il a avec Sloan. Que Sloan lui fait remarquer qu'effectivement, bah ouais, leur amitié, elle est tellement forte qu'elle est dans tous les univers. Et du coup, il se dit, bah, je fais aussi confiance à Rutherford, à Tendi, à tous les autres pour trouver une solution avec le message que je vais envoyer à Boimler. Mais je n'ai pas compris, par contre, comment il a fait pour envoyer ce message.
Je ne sais plus, il dit qu'à un moment, il avait pu le faire, il a envoyé un message. Mais, bah, a priori, c'est un message qu'il a envoyé sur la tablette de son double, mais... Le comment, on sait pas. Après, il a des technologies de la section 31.
Ouais, c'est ça. Opacité. Ah, mais je pense qu'ils vont en parler au début de l'épisode prochain. Hein, donc, il faudra bien que Boimler explique ça aux autres et donc il explique comment il a eu le message.
Il faudra déjà qu'il arrête de crier. Oui. Parce que c'est très très drôle la fin de l'épisode quand on l'entend hurler sur le générique. Ouais.
Le truc qu'ils avaient pas fait avec Mariner quand elle doit hurler jusqu'à l'arrivée sur la Starbase 80 et où ça s'arrête pendant le générique.
Et là, du coup, on le revoit l'épisode prochain, il continue de hurler. Et c'est-à-dire que pendant une semaine...
Oh bah c'est sûr que ça va être ça. Ouais.
Pendant une semaine, il aura hurlé, en fait, dans nos têtes. Ouais, bon. Moi, franchement, je trouvais que c'était un bon épisode parce qu'il y a des gros enjeux, il y a de l'action, il y a de l'émotion, quand même, parce que... et aussi, quand même, un autre truc par rapport au fanservice, moi, j'avais peur que Garak et Bashir, ils soient là juste là pour un petit caméo de voilà, on les voit 10 secondes et c'est tout quoi. Mais en fait, c'est carrément le plot B de l'épisode carrément parce qu'en fait, ils s'engueulent donc une conversation de couple, une dispute de couple pour savoir dans quelle dimension ils vont emménager quand toute cette histoire sera terminée quoi. Et Garak il veut aller dans sa dimension et puis Bashir il veut aller dans la sienne Et voilà, j'ai trouvé que c'était super drôle.
On n'a pas parlé non plus du fait... T'as fait une bonne comparaison tout à l'heure entre T'Pol et Dax en disant que c'était un peu comme McCoy et Spock. Et en effet, le fait qu'il y ait la fusion mentale à la fin, c'est clairement comme la fin de Star Trek 2 et le début de Star Trek 3. Mais c'est vrai que cette idée de secours d'un symbiote en utilisant la fusion mentale, on n'y a jamais pensé, mais c'est vrai que c'est pas con du tout, finalement, comme solution. Et c'est là, je trouve... Toi, je reviens un petit peu sur ce que je disais pour l'instant sur l'épisode et sur le côté fanfic. À partir du moment où ils ont mis ça en place, ils s'en sortent bien. Ils respectent bien les règles et ils exploitent le potentiel de chacun des personnages qu'ils ont mis dans cet équipage-là. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bien vu.
Moi, j'ai trouvé ça, par contre, un peu dommage de... Enfin... quitte à faire du fanservice ou à réutiliser des personnages et réutiliser Dax, je sais pas pourquoi ils ont pas repris Ezri, ça aurait pu être intéressant d'avoir Ezri quelque part. Je sais pas si Nicole Debert est en bonne communication avec la franchise Star Trek, je sais pas s'il y a eu des trucs ou pas, mais Ezri c'est un peu un personnage que je trouve gâché de fait qu'elle a eu qu'une saison, quoi. Alors que final, mince, comment il s'appelle du coup,
Garzon,
on l'a quasiment, enfin il l'a quasiment plus d'existence au sein de la franchise Star Trek que Ezri, qu'on a vu toute une saison, mais il a tellement été référencé, c'était le pote de Sisko aussi, que je sais pas, j'aurais plus mis en avant justement Ezri.
Le budget guest star était déjà au peut-être. Maximum, peut-être.
Ou alors il fallait justement le perso qui va se battre et qui va buter tous les aliens, donc c'était un peu le rôle aussi de ce perso-là, je sais pas.
Ouais, c'est vrai qu'il y a le côté
c'est un peu le Worf de l'équipage,
quoi. Utilisé là. C'est le bourrin.
Le côté sacrifice, ouais, faire revenir Terry Farrell pour la faire une Jadzia qui meurt, ça craint. Et pareil pour Nicole de Boer. Mais les deux actrices, hein, elles sont en bon terme avec Star Trek parce qu'elles font souvent des trucs. Et puis d'ailleurs, Terry Farrell, elle est mariée avec le fils de Leonard Nimoy. Donc oui, là-dessus, s'il y avait eu moyen de... Enfin, s'ils avaient voulu les faire revenir, je pense qu'ils auraient pu, quoi. Je pense que c'est simplement peut-être une histoire de budget. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, bah... Ou tout simplement deux choix scénaristiques, parce qu'ils se sont dit qu'effectivement, il fallait avoir un Curzon qui fasse la bagarre comme un Klingon, parce qu'on a besoin d'un personnage comme ça. C'est possible. Bon, bah voilà. En tout cas, moi, je suis vraiment... Je sais pas si ça s'entend, mais moi, je suis très content de cet épisode.
Ça s'entend, ouais.
On le savait. Moi, j'avais vu sur le Discord.
Et vraiment, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine, mais en même temps, je suis triste d'être à la semaine prochaine parce que vraiment, ça me fait mais vraiment chier que cette série Star Trek-là s'arrête. C'est la première depuis longtemps.
Je pense qu'ils vont annoncer un film à la fin de la saison.
Ouais, il y a intérêt. Franchement, il y a intérêt. Qu'ils fassent quelque chose. Faites quelque chose, n'importe quoi, mais faites quelque chose, quoi. C'est, là, pour moi, on sent le manque des deux saisons, j'imagine, qu'il aurait dû avoir après, quoi. Parce que ça se termine, on va dire, ça se goupille plutôt bien avec cette histoire, avec des gros enjeux qui bouclent un peu toute la série, etc. Mais quand même, franchement, je pense qu'ils avaient encore plein d'autres trucs à raconter, quoi. Donc, si nous avions fait plus d'épisodes comme l'épisode 7, ça aurait été super, par exemple, tu vois.
L'avantage, c'est qu'on sait que les séries d'animation, c'est plus simple de les relancer, même dans quelques années, façon Futurama et autres.
Aïe.
C'est toujours plus simple qu'une série live. Donc, si un jour, il y a possibilité de le faire, ce sera plus simple. Ouais.
C'est vrai que la jurisprudence Futurama est assez forte. Donc, ils sont revenus combien de fois ? Trois fois ? Ouais, trois, quatre fois, ils sont revenus.
Ils sont revenus au moins trois fois. Bah ouais, ils sont revenus le même nombre de fois qu'ils ont été annulés, de toute façon. Au moins trois, hein.
Ouais, trois fois. Oui, c'est la troisième... C'est la quatrième itération, puisque c'est la troisième fois qu'ils reviennent. Ouais, tout à fait. Et c'est toujours aussi sympa à regarder, d'ailleurs. Même si ça a un peu vieilli, finalement. Parce qu'ils sont restés un peu dans leur jus d'il y a 20 ans. Mais c'est toujours sympa, quand même. Mais c'est vrai que Lower Decks, de toute façon, ça se voit, hein, ces séries-là, c'est pas des séries qui doivent coûter super cher, donc franchement, j'ai du mal à comprendre même pourquoi il l'a annulé. Je sais pas si Romain, toi, t'as des idées par rapport à ça.
Je pense que, enfin, après, c'est ce dont on parle souvent d'ailleurs aussi quand Romain Bramy est là, les plateformes là sont en train de se rendre compte qu'elles jettent l'argent par les fenêtres, donc faut faire des économies absolument partout. Et je pense que malheureusement, nous, on adore Lower Decks, mais c'est pas du tout une série qui fonctionne aux États-Unis. Le DVD et le Blu-ray des dernières saisons de Lower Decks, c'est du gravé à la demande. C'est même pas des vrais coffrets qui sortent.
On les a même pas, alors.
Ouais, donc en France, ils sortent plus. Alors ils sortent quand même en Angleterre et en Allemagne. Donc je pense que clairement, ça a fait beaucoup moins d'heures de visionnage que du Discovery ou du Picard. Et même chose probablement avec Prodigy. C'est pour ça que ça avait été viré de Paramount. Donc je pense que malheureusement, je pense qu'il y a toute une partie du fandom qui regarde pas les séries animées et qui ont même pas essayé. Juste, ils ont dit, ouais, c'est de l'animation, c'est pour les gamins. Je regarde pas. Après, t'as une autre partie qui a essayé, mais qui supporte pas. Moi, je connais des gens qui étaient vraiment gros amateurs de Star Trek, période Voyager, Next Gen, etc., et qui ont tenté Lower Decks et qui ont vraiment pas du tout accroché, parce que c'était pas leur humour. Donc, je pense que, voilà, bon, comme d'hab, avec les plateformes, on n'a jamais de vrais chiffres, mais je pense que clairement, il y a un petit public très accro, un peu comme pour notre podcast, mais c'est pas les chiffres que peuvent atteindre des discos ou des Picard ou Strange World qui apparemment marche quand même assez bien.
Ouais, c'est dommage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de merchandising sur Star Trek Lower Decks, donc qui laisse sous-entendre quand même que ça se vend. Tu vois, par exemple, ils ont relancé les comics là, ils ont relancé pas mal de produits dérivés qui ont l'air de bien fonctionner. Hein. Donc, mais comme tu le dis, c'est pour les produits dérivés, c'est une chose. Mais en termes de catalogue sur les vues, s'il y a des comparaisons à faire et qu'ils doivent sabrer, je sais pas moi, la moitié de leur catalogue, forcément, Lower Decks doit pas être dans la moitié la plus regardée, quoi. C'est sûr et certain. C'est dommage. Bon ben voilà, sur ce, on va se dire que c'était un bon épisode et puis on est impatients de voir le dernier. Qu'est-ce que vous imaginez pour la fin? Est-ce que vous pensez que vous... Alors, je vais plutôt reformuler ma question. Est-ce que vous pensez que vous allez être déçu par la fin?
Non, je pense... Enfin, je serais déçu que ça s'arrête et du fait que... À mon avis, ça aura pas justement tout raconté parce qu'ils ont été un peu pris de court. Mais je pense que l'épisode sera relativement... Enfin, ayant bien aimé celui de cette semaine, à mon avis, ça sera dans la foulée. Enfin, ça sera un bon équivalent la semaine prochaine, quoi. Au niveau... je pense qu'on va voir de tout le monde, quoi, au niveau de l'équipage. Tout le monde va y mettre du sien, à mon avis. Et ça devrait être assez dense, à mon avis. Ça sera un épisode qui sera un peu plus long aussi, comme cette semaine. Donc, sur l'intrigue, j'ai pas envie de spéculer, mais je pense pas que je serai déçu.
Très bien. Et toi, Romain ?
Bah, c'est évident que j'ai pas envie d'être déçu. A priori, je fais quand même plutôt confiance à l'équipe de cette série qui, quand même, voilà, globalement, sur 5 saisons, a quand même plutôt réussi son pari. Et voilà, j'espère juste que McMahon, même s'il savait pas que ça serait la dernière saison, je pense pas qu'il ait pris le risque de laisser un truc complètement ouvert. Comme si la saison 6 était garantie. Ça, je pense pas. Donc voilà, j'espère qu'il y aura quand même une sorte de conclusion qui en effet pourrait conduire à des suites, comme on disait, ou des films, ou un reboot d'ici quelques années. Mais voilà, j'espère juste qu'on aura une semi-conclusion, quoi, un truc qui nous laisse pas non plus complètement en chien à la fin, quoi.
Ouais, je suis exactement dans le même état d'esprit que vous deux. Donc, la seule réponse, ça sera la semaine prochaine. À moins qu'on puisse voyager dans le temps et être déjà la semaine prochaine, on va devoir attendre 7 jours pour en savoir plus.
Ou alors voyager et dans une dimension parallèle où il y aura une saison 6, une saison 7, une saison 8.
Ah, ça, c'est là où je veux aller. Franchement, c'est là où je veux aller. C'est clair. On se fait un petit point promo ou reco. Romain, qu'est-ce que tu aurais à promouvoir ou recommander?
Je vais vous faire une petite reco avec quelqu'un que vous connaissez, une petite reco sur Frédéric Sigrist, puisque sur la plateforme France Télé, ils ont mis en ligne il n'y a pas si longtemps la 5e et ultime saison de sa série Space Game, qui est sa petite shortcom dans laquelle il joue et qu'il écrit avec Dedo. Si vous ne connaissez pas, le point de départ est relativement classique. C'est un peu comme Clerks, le film de Kevin Smith, sauf que ça se passe dans un magasin de jeux vidéo. Donc voilà, c'est deux vendeurs dans un magasin de jeux vidéo. Et ils sont trois, c'est aussi une vendeuse, mais la vendeuse change de personnage et d'actrice pour cette dernière saison. Et donc voilà, c'est l'ultime saison de cette série. La fin est là aussi très méta, je vous en dis pas plus. Et puis, dans cette saison, il y a aussi un caméo de Roland McDan, quand même. Donc, c'est très sympa à voir. Ça se voit très, très vite. Hein. C'est des épisodes assez courts qui font 3 minutes. Donc, si vous aimez tout cet esprit dans lequel on est, avec des références aux jeux vidéo, séries télé, aux films, etc., je vous conseille d'aller voir ça. C'est sur la plateforme de France Télé. C'est gratuit. Et il y a aussi toutes les précédentes saisons qui sont en ligne à voir ou à revoir.
Ah bah, c'est noté, parce que j'avais complètement raté cette série. Donc, je me le note. Et d'ailleurs, moi, j'en profite pour vous recommander, quand il sera sorti de son rodage, le dernier spectacle de Dedo, parce qu'on l'a vu à Metz la semaine dernière. C'était super drôle, et d'ailleurs, donc on a pu le rencontrer, puisque ma femme, Céline, lui a vendu sa fameuse maison d'Halloween de Michael Myers. Donc, il était très content, et nous aussi, et c'était très bien. Et toi, Manu ?
Moi, j'ai deux recos de deux séries qui ont commencé la semaine dernière. La première... Petit clin d'œil à la concurrence, mais c'est que j'aime bien Star Trek Skeleton Crew pour l'instant.
Ok.
j'étais sceptique sur le pilote et Star Wars, Skeleton Crew, j'ai dit Star Trek, je crois.
Pour une fois que c'est dans ce sens-là.
J'étais sceptique sur le pilote et sur le trailer parce que, enfin, la première partie du pilote qui présente une planète dans l'univers Star Wars qui est très banlieue américaine chelou. Avec les enfants qui vivent en banlieue, prennent le bus pour aller à l'école. Mais assez rapidement, ça part dans l'aventure. Le principe, c'est un groupe d'enfants qui trouvent un vaisseau. Donc vous vous souvenez quand je disais que Star Trek Prodigy, c'était la plus Star Wars des séries Star Trek? Et ben là, ils ont pris le plot de Star Trek Prodigy, ils l'ont adapté à Star Wars. Donc C'est des gamins qui trouvent un vaisseau qui part de leur planète, et après on se rend compte qu'il y a du lore sur leur planète qui mérite d'être développé et qui expliquera peut-être la particularité de cette planète. Et c'est des enfants menés dans un monde de pirates avec un vaisseau tout pourri, et qui vont trouver un mec un peu chelou qui est un pirate slash peut-être Jedi slash en tout cas un mec qui maîtrise la force quoi, et qui est incarné par Jude Law. J'aime bien le groupe de gosses, j'aime bien l'ambiance, c'est... Ça change des dernières séries Star Trek, même si j'ai bien aimé The Acolyte. Mais
Star Wars.
Des Star Wars, oui, putain. Ouais, ça arrive pas à grand monde de faire ça dans ce sens-là. Donc voilà pour Star Wars, Skeleton Crew. Et l'autre, c'est Creature Commandos, qui est la série animée.
Ah oui, c'est sorti, là.
Ouais, ça a commencé la semaine dernière.
Oh putain.
C'est dispo sur Max, alors l'autre c'est Disney+. Là c'est dispo sur Max, il y a 3 épisodes, il y en avait 2 la semaine dernière et le 3e est sorti hier ou aujourd'hui, hier je crois, je l'ai vu hier. Donc c'est là, techniquement la première série du nouvel univers DC partagé, cinéma, série télé, géré par James Gunn avec, la semaine prochaine on aura le trailer de Superman, si vous voulez. Mais il y a aussi du Brave and the Bold avec Batman et Damian Wayne qui est prévu, Damian Wayne Robin quoi. Supergirl avec l'adaptation de Tom King, plein de trucs. Et je dis officiellement c'est la première, mais ça conserve en gros The Suicide Squad et Peacemaker sont canoniques. Si ce n'est l'apparition de la Justice League dans Peacemaker, vu que... Alors spoiler pour Peacemaker, mais bon c'est à 2 ans maintenant. Vu que ça sera plus les mêmes personnages de la même Justice League, donc ils ont dit tout est canonique sauf l'apparition de la Justice League. Et du coup Creature Commandos, ça fait suite justement à Peacemaker, tu vois clairement que c'est canonique puisque ça fait suite à la révélation qui est en fin de saison 1 de Peacemaker, et là où ça place la Task Force X de Amanda Waller, et du coup elle utilise plus des humains mais des créatures pour jouer sur des technicalités légales, parce qu'on lui a interdit d'utiliser des prisonniers humains. C'est une autre Suicide Squad qui s'appelle pas Suicide Squad, et qui est avec la fiancée de Frankenstein, avec J.A. Robot, qui est un robot qui a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale pour tuer des nazis. Nina, je ne sais plus son nom, qui est une sorte de... Alors, si vous ne connaissez pas le personnage, c'est Ebb Sapiens en femme dans l'univers de DC. Ebb Sapiens de Hellboy, du coup, l'homme poisson quoi, qui vit dans un scaphandre. Et c'est le même personnage mais en version féminine chez DC Comics. Docteur Phosphorus, qui est un mec un squelette géant radioactif. Et Rick Flag Senior, le père du Rick Flag qui meurt dans The Suicide Squad du coup.
D'accord.
Et il y a Weasel aussi, on se rend compte que Weasel n'est pas mort dans The Suicide Squad.
Ah, et ça c'est la meilleure nouvelle.
Et franchement, c'est drôle et violent comme ce qu'on a vu par le passé de James Gunn chez DC. C'est la même ambiance avec aussi, du coup, un côté un peu dépressif comme Peacemaker, qui rend très bien.
J'étais déjà chaud pour la regarder, là tu me l'as encore
et
bien
en plus,
vendu.
Si t'es un peu chauvin, c'est le directeur
c'est
production,
Balak.
C'est Balak, ouais.
Bah oui, en plus, j'adore sa façon d'animer et on reconnaît tout à fait son style, quoi. Et je trouve que c'est super fluide et que c'est adapté à ce type de projet, quoi. Bon, bah super. Et bah en tout cas, merci à vous deux d'avoir partagé un peu mon enthousiasme cette semaine. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre Facebook et sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et tout plein de prospérité. Salut tout le monde.
Salut.
Salut, à bientôt. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes.
Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des Légendes. Avec une équipe d'experts différentes à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Geralt de Rive, Morgane la Fée, Elric de Melniboné, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des Légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label